Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, décalées, différentes, pas pareilles. Bonjour et bienvenue dans l'onde très curieuse de ce 9 décembre. Aujourd'hui, on plonge toute sensibilité dehors dans les mois et le mois, comme le soi mais sans s, à l'occasion du mois en folie. Et surtout, car c'est la deuxième car c'est le deuxième épisode de notre nouvelle série mensuelle où les rédacteurs-chefs ne sont plus celles et ceux que vous connaissez, mais d'autres journalistes, d'autres scrutateurs du monde. Ils sont alchimistes et participent à l'écho de la Réhab, ce collectif de soignés et soignants, la psychiatrie, né il y a 14 ans au sein du service de réhabilitation psychologique de l'hôpital Sainte-Marie de Privas, qui se retrouve chaque semaine jusqu'à deux fois, les mardis et les jeudis, autour d'un atelier d'écriture pour transformer le monde au tamis de l'imaginaire et de la réflexion, transformer l'écrit en poésie. Alchimiste donc. Fréquence 7 avait très envie de donner à entendre ses voix derrière l'écho de la Réhab, et d'être pour vous, qui êtes autour de cette table, et vous qui êtes derrière le transistor, une chambre de résonance où la vie et l'écrit se rencontrent, où les mondes intérieurs et l'imprévu se fécondent, où le désir de partage et de sublimation se font corps et voix, ici, derrière ces micros. Je suis très très heureuse donc d'accueillir pour la deuxième fois les rédacteurs de l'écho de la Réhab et d'autres que ceux du 11 novembre, date de la première diffusion de notre magazine. Alors bonjour à tous les trois, bonjour Guillaume.
Bonjour Sophie.
Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
Et bonjour Tofi.
Kofi.
Kofi, pardon.
Merci.
Bonjour Kofi.
Bonjour Sophie.
on va commencer dans un instant cette émission. Juste le temps de vous dire que vous retrouverez bien sûr, comme tous les lundis, en fin d'émission, la Minute Asso avec Christelle Durand qui nous parlera du FDVA, le Fonds de Développement de la Vie Associative. Ça, ce sera en fin d'émission. Alors on commence avec l'écho de la Réhab. Avant d'entrer dans le vif du sujet qu'on a déterminé un petit peu autour justement de l'identité de la maladie, de la création, on se fait un petit tour de table pour que vous nous rappeliez qui vous êtes. Alors je vais commencer par toi, Kofi.
Moi je suis Kofi Gbafaona, je suis togolais en France depuis 2013, hospitalisé à Sainte-Marie. Et je participais à l'écho de la Réhab depuis 4-5 mois. Uh-huh. Et c'est un lieu de partage, un lieu d'échange où je me sens très bien.
Uh-huh. Merci. Christian ?
Alors moi, vous me connaissez peut-être, j'étais là la dernière fois. Toujours le même.
C'est-à-dire différent forcément.
Oui, parce que je réfléchis au sein de l'écho. L'écho de la Réhab, c'est bien pour ça, on est nombreux, chacun avec son passé, avec son vécu, et on arrive à partager et à construire, et on a besoin de construire. Ça aide également pour construire son identité, justement. Mais on le fait avec des mots.
Transformer les mots en mots, peut-être.
Peut-être.
Guillaume ?
Oui, Guillaume.
Même question, mais qui es-tu ?
Qui es-tu ? Je travaille comme psychologue à l'hôpital Sainte-Marie, service de réhabilitation psychosociale.
Psychosociale, oui, j'ai dit psychologique encore.
Oui, le mot social est vraiment important, c'est vraiment les questions du rapport avec avec le monde qui est au cœur de notre travail. Et donc, je participe au journal depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai rejoint Agnès et Jean-Paul qui étaient à l'origine de cette aventure et toujours avec autant d'enthousiasme. Le journal, c'est vraiment cet espace de... J'aime à dire que c'est un espace où l'on cultive la liberté. Et dans cette culture de la liberté, il se produit des choses. Il se produit des choses intérieures assez profondes qui nous aident à nous transformer. En tout cas, moi, personnellement, ça me transforme et... Je crois que ça transforme aussi un petit peu le monde, mais ça fait du bien.
Alors, quand je vous ai demandé de quoi vous vouliez parler aujourd'hui, il y a ces thèmes identité, maladie, création qui sont arrivés. Pourquoi ? Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que...
Je suis en recherche d'identité, quelque part. Et grâce à la mosaïque, j'arrive à construire cette identité. Mais c'est compliqué à cause de la maladie. Mais j'arrive à passer le cap pour ne plus penser à la maladie et pour essayer de penser à quelque chose de constructif. Mmh. Et ma personnalité est incluse. J'ai besoin de créer pour faire quelque chose de bien. Parce que je trouve que la vie, elle est moche.
Peut-être.
C'est ma façon de voir les choses.
Ouais. Pour toi, Kofi ?
Mon identité, elle est personnelle, elle est culturelle, elle est sociale. Et quand on va à l'écho de la réhab, il y a un côté où on partage les mêmes affections. On ne se voit pas comme quelqu'un d'autre extérieur peut nous voir. Et notre identité se construit aussi là-bas. L'identité sociale, c'est aussi quand la famille, comment la famille accepte la maladie. Mmh. Et des fois, on est rejeté. Et quand on arrive à l'école de la réhab, beaucoup disent c'est ma famille, quoi. Je me sens en famille ici. Mmh. Et c'est tous ces rejets familiaux-là qui font qu'on en arrive à dire qu'on a une famille, des gens qui nous acceptent comme ça. Et l'identité culturelle, c'est elle qui nous amène à être là devant vous aujourd'hui, à nous affirmer aussi dans la société avec le moi en folie, où on a déambulé par exemple dans les rues de Privas, pour montrer que nous faisons partie aussi de la société, qu'on doit nous accepter. L'identité... Ouais, il y a aussi l'État, qu'il ne faut pas oublier, qui joue un rôle important dans notre identité, en nous reconnaissant comme travailleurs handicapés, par exemple, et en faisant des gestes comme l'AAH. L'État permet de soutenir des malades dans la construction de leur identité.
Qu'est-ce que ça t'inspire, Guillaume ?
La richesse des discours qu'on peut entendre ici, qu'on entend à l'école de la réhab, est toujours assez surprenante. Et ça, c'est vrai que ça emmène très loin. La construction de l'identité, c'est la quête d'une vie entière. On n'arrive pas un jour, hop, on a une identité et c'est fait... et c'est fait, c'est fini et c'est acquis, hein, quelque chose qui se construit. Et puis il y a des moments où il peut y avoir des loupés, hein, c'est quand la maladie arrive. Et je me disais, il y a vraiment une double dimension dans la maladie, celle qui nous arrive, qui nous fait souffrir, et une forme d'identité qui nous est attribuée par la société. Tu es le malade et tu vas rester à cette place-là. Quelque chose comme ça qui enferme aussi énormément. Et l'idée de notre travail du journal, c'est vraiment de faire bouger un peu ces lignes-là.
Mmh. C'est-à-dire de ne pas être assigné à la seule identité de malade. Parce que, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de cette table, mais là, pour l'instant, on parle d'identité, j'entends pas le S que j'aurais pourtant envie de donner. Il y a des identités, et peut-être que la maladie fait partie d'une de nos identités, mais qui n'est pas celle qui peut être forcément prédominante, mais qui peut l'être peut-être de temps en temps. Je sais pas.
Le problème, c'est qu'on est mis dans des cases. Mmh. On est vraiment stigmatisé. Et à force d'être stigmatisé, on finit par se poser des questions. Pour moi, en tout cas. Mais ta maladie.
Ah. Et alors, stigmatisé par qui, par exemple ?
Par la société.
Mais ça veut dire quoi, la société ?
Ben, par exemple, moi, quand j'ai été hospitalisé, le jour de mon hospitalisation à Sainte-Marie, mm-hmm. Mon ex-femme a dit tout de suite à mes filles, je vous avais dit qu'il était fou, il est à Sainte-Marie. Ça, c'est de la stigmatisation. Parce qu'il y a des maladies au pluriel, et des malades au pluriel, donc des identités au pluriel. Puisque chacun est différent. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même parcours. Donc oui, je te rejoins, il y a un S à identité.
C'est aussi un peu ce que tu disais, Kofi, quand tu disais qu'il y a au moins différents types d'identités sociales, personnelles, culturelles.
Oui, et puis au niveau de la maladie aussi, on n'a pas le même type d'identité. Quand je prends un malade comme un schizophrène, et il a une altération de son identité. Il voit des esprits, il voit des choses qui sont en quelque sorte une fragmentation de sa propre identité. On peut parler aussi d'identité multiple, mais l'identité, mais d'une façon générale, sans parler de ces fragmentations de l'esprit, l'identité, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et même le schizophrène, au bout d'un moment, doit construire une identité propre par rapport à tout ce qu'il vit autour de lui. Et c'est avec le temps qu'on trouve le bon traitement, la compréhension aussi de la maladie, et qu'on assimile tout ça pour accepter sa propre identité.
Et puis parce que aussi... Alors, j'ai pas d'expertise là-dessus, mais il me semble que on n'est pas tout le temps malade, on n'est pas tout le temps, j'allais dire presque, enfin, en crise. Il y a des moments où la maladie, c'est comme un ressac, comme une vague. Hein, la maladie laisse place à toutes les autres couleurs de l'identité, justement.
Tout le monde délire un peu. Tout le monde délire un peu. Nul n'est exempt de délire. Mais au niveau du malade, au moment où il a dépassé un peu la limite et que tout le monde l'a reconnu comme malade, sans sur la stigmatisation qui fait qu'il est considéré comme autre dans la société. En plus, il y a l'auto-stigmatisation aussi. Le délire fait partie de l'esprit, c'est la création, on en reviendra tout à l'heure, mais délirer c'est créer. Oui.
Délirer c'est créer.
Oui.
Est-ce que tu es d'accord avec ça, Christian ? Est-ce que délirer c'est créer ?
Il faut un brin de folie pour créer.
Ouais. Mais au moment M où on est en train de créer, est-ce que si on délire, on n'est pas... est-ce qu'on ne perd pas justement tous ces moyens de puissance et donc de création ?
Non, au contraire. Enfin, ça dépend ce qu'on travaille comme tableau.
Oui, et parlons, voilà, plutôt que de parler de cas général, ouais, parlons de cas singulier. Toi, par exemple.
Ben, quand, ça dépend du tableau que je travaille. Quand c'est un tableau avec des tas de petites pièces.
En céramique, donc.
En céramique, oui. J'oublie tout le reste. J'oublie tout le reste. Et j'arrive à construire, à faire quelque chose de beau. Et ça m'aide dans la construction de ma personnalité. Je me dis, t'arrives à faire quelque chose de bien. T'es pas que le pauvre type de service, quoi.
C'est ce qu'on disait juste avant, avant de prendre l'antenne. Tu expliquais le fait que tu faisais de la céramique. Et donc, redis-le, parce que tu le disais très bien. La céramique, pour toi, tu vas casser, en fait. Tu vas réduire en fragments toutes ces petites...
Oui, c'est ça, en fait. Je vais prendre un carreau, du carrelage, tout simple, un marteau, et je vais casser, et je vais recasser. Parce que ma vie, c'est des miettes. Donc, en fait, je reproduis ce que j'ai vécu. Et de ces miettes, j'essaie de construire quelque chose de beau pour renouveler un peu ma personnalité, justement. Et c'est comme ça que j'y arrive. Petit à petit, une miette, plus une miette, plus une miette. À la fin, ça finit par donner quelque chose de beau. Et ça affine la personnalité. en ce qui me concerne.
Mmh. Guillaume, toi, quel est ton rapport à la création, justement ?
Je pensais quand tu parlais de délire avant, enfin je vous ai demandé dans cet échange, hein, il y a la part de délire qui est tout cela à l'intérieur de nous et qui nous aide et qui nous pousse à créer dans le sens aussi de se construire soi-même. C'est ce que tu disais, Christian. Bon, il y a aussi ces temps où le délire c'est de la souffrance parce qu'il n'arrive pas à aboutir à une création formalisée. Quelque chose qui revient, qui tourne en rond et qui ne sert plus de support d'expression, mais qui devient au contraire un enfermement. Et c'est là qu'on a besoin de l'autre dans un espace qui ne soit pas jugeant.
On a toujours besoin de quelqu'un. On ne peut pas vivre seul. L'être humain, il est fait pour être grégaire. Il n'est pas fait pour être seul. Donc c'est vrai qu'on a tous besoin des uns des autres, même si on n'y prête en fait aucune importance sur le coup. Mais seul, on ne fait rien.
Ce que je vous propose, c'est d'avancer justement avec d'autres, avec un autre, enfin, même peut-être plusieurs autres, HK et les Saltimbanques, qui vient nous parler en musique et en chanson aussi de peut-être d'une version de la folie.
Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé, pour unique salaire, de la traînée de poudre, d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore et encore. Oh,
HK, les saltimbanques rallumeurs d'étoiles, un petit conseil de Kofi en arrivant qui nous a proposé ce morceau de musique. Et on était là, alors on continuait notre discussion autour de questions très intéressantes sur effectivement le qui suis-je et qui suis-je par rapport à la création. Et voilà, et Kofi, tu continuais de nous parler de ce thème-là.
Oui, je disais que la question du moi et de qui suis-je est très présent dans la conscience du malade mental. Et d'ailleurs, il est aidé par des psychologues et des psychiatres qui sont spécialisés dans les impacts l'impact des troubles sur la pensée, le comportement et les émotions. Et à chaque fois, le malade doit narrer son histoire. C'est le fait de narrer son histoire-là lui permet de s'auto-construire avec des guides qui sont les psychiatres et les psychologues. Et à chaque fois, il doit trouver un juste milieu entre l'image que les autres lui renvoient, la perception qu'il a de lui-même et l'identité qu'il veut adopter pour être juste dans la société.
Ouais, et c'est ça. Ça veut dire que l'identité, c'est aussi un souhait, c'est-à-dire que la volonté d'eux. Mais c'est, tout ça, ce sont des histoires, tu le dis très bien, c'est l'identité narrative, comment on se raconte. Et je disais à l'antenne, effectivement, hors antenne, pardon, Paul Ricoeur disait « l'identité, c'est une promesse, c'est ce à quoi on croit, une promesse faite aux autres et faite à soi-même ». Et il y a cette idée-là aussi que tu dis très justement, c'est ce que nous, on souhaite, qui on souhaite être.
Oui, et c'est un défi pour le malade, pour tout le monde d'ailleurs, mais beaucoup plus pour le malade parce qu'il est rejeté dès le début, que tu n'es pas conforme aux normes de la société et tu dois refaire un effort vers la société. Et la maladie lui permet de se ressourcer, il se recule de la société, il s'isole de la société pour se regarder mieux, se connaître davantage grâce aux psychologues et autres aussi qui l'aident. Mais il y a un retour vers la société qui demande une maîtrise de soi. Et là, il a besoin d'ajuster ce qu'il pense de lui-même, ce que la société peut accepter de lui.
Est-ce que toi tu vois une différence, une évolution dans la manière justement dont la société accueille, regarde les personnes malades?
Oui, j'aurais envie de dire malheureusement oui. Dans le sens négatif, hein. On est. Après, c'est peut-être ma vision du monde un peu pessimiste, un peu noire. On est dans des temps pas forcément faciles, mais où forcément, dès lors qu'on est plus dans une forme de chacun pour soi, de ne plus être à l'écoute de l'autre dans toute sa différence, et que ce que l'on vient rechercher chez l'autre, c'est uniquement de l'identité, ce qui est identique à soi-même. Et ben forcément, ça crée beaucoup plus de rejet et de mise à l'écart. Et en même temps, là-dedans, tout le monde y perd. Ouais.
Christian, est-ce que toi, tu as le même sentiment, tu partages le même sentiment que Guillaume?
C'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Trop.
On peut passer à autre chose.
Ouais.
On peut passer à autre chose. En plus, le temps file, mais il y a beaucoup de... J'avais entendu, justement, en préparant cette émission, qu'en parlant du délire, alors je reviens à ça, vous disiez, le délire, c'est un imaginaire qui s'autonomise, qui se déréalise, en fait, qui s'autonomise, qui s'extrait, peut-être, qui s'extrait de la vie commune, dans le sens, dans la vie partagée,
qui se réalise aussi.
C'est un délire qui serait le délire, ce serait un imaginaire qui se réalise.
Ouais.
Ah ouais, tu reviens à cette idée que le délire te permet toi de créer.
Ouais. Oui, j'ai besoin d'avoir ce petit brin de folie, entre guillemets. Et puis j'ai besoin de mon délire. Ça m'évite de penser à ma maladie.
Le délire t'évite de penser à ta
c'est
maladie.
C'est compliqué.
Oui, parce que quand je suis dans mes délires, je suis sur ma mosaïque. Donc quand je suis dessus, je pense pas à la maladie. Je pense à la mosaïque.
Oui, mais
la maladie serait du coup le rejet de ton délire. C'est ça?
Oui.
C'est pourquoi je disais la dernière fois, au moins en folie, que l'hôpital devrait être un lieu où le fou se livre à sa folie.
Ah, mais alors là, je pense que ça ferait tellement peur. Mais alors, c'est une super idée. On peut peut-être rester là-dessus. Et si l'hôpital était un lieu où le fou se livre à sa folie? Ouais. On rappelle, puisqu'on en a un petit peu parlé, c'est la fin du mois en folie, la biennale art et psychiatrie sur le thème tissage et métissage, qui a lieu jusqu'à ce week-end, jusqu'au 14 décembre. Vous trouverez toutes les infos sur le web, tout simplement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Avant de se quitter, on va écouter un petit son que l'une des rédactrices de l'École d'Ariab, qui n'est pas ici avec nous, Carole, nous a envoyé.
Pêcheur. La planète du pêcheur, ce serait ce qu'est devenue la Terre. Se complaisant dans les erreurs, en les cultivant, s'alliant ainsi aux destructeurs. Certains parlent de la banalité du mal, ce qui est très juste et même, pourrait-on parler de dénigrement du mal, rendant ainsi aveugles et sourds. S'il fut une époque où l'on craignait le mal, l'actualité s'en délecte jusqu'à en faire des faits divers. Apparemment, le mal entretient et rapporte dans les caisses financières de la haute sphère. L'humanité décline, pendant que le mal s'expanse. L'éloignement des croyances tend au nihilisme et ignore les valeurs fondamentales. De ce fait, nos sociétés vont mal, entre pays en guerre et d'autres dans la surconsommation facile. Le mal régit notre planète. Il est possible pourtant de s'en défaire, en prenant conscience de ce qui est bien et mal, et en agissant à titre individuel pour faire le bien en soi et autour de soi. Carole.
Merci Carole pour ce texte qui résonne particulièrement avec un autre texte avec lequel tu es venu, Guillaume, qui est un texte écrit par qui ?
C'est un texte écrit par Christophe. Christophe, c'est un des routards du journal qui est avec nous depuis très longtemps et qui écrit beaucoup, pour ne pas dire tout le temps, et avec toujours son regard très, très singulier à lui sur le monde. Et c'est vrai qu'il va résonner beaucoup avec le texte de Carole. Construis le bien et le mal, choisis le cœur, combat le mal, indiffère le cœur, matière le mal, générer le bien, symptôme le cœur, message le mal, structurant sa belle nouvelle, facteur le mal, obliger son collectif, résonne le bien, endigue le mal, construire le bien. Christophe.
Merci Guillaume pour cette lecture et merci Christophe pour ce texte. Est-ce que vous voulez réagir à ce texte?
Moi, je voudrais dire que il y a l'autofragilation dans la concession de l'identité et qui amène à souffrir pour les autres, à souffrir pour ce qui se passe dans le monde, à intérioriser le mal. Et le malade souffre encore plus en pensant qu'il y a autant de mal dans le monde. Et j'espère que Carole ne souffre pas trop.
Merci. Merci Kofi, merci Christian aussi d'avoir été parmi nous. J'espère que
c'est moi qui te remercie. Cette porte ouverte sur la psychiatrie, c'est énorme pour nous.
J'espère vous revoir. J'espère vous revoir d'ailleurs tous les trois, peut-être bien. le mois prochain. Merci encore, Guillaume.
Merci, Sophie.
L'onde curieuse n'est pas terminée puisque je vous l'avais promis, c'est l'heure de la minute asso tout de suite.
La minute asso.
Et dans la minute asso de ce lundi, nous recevons Christelle Durand, déléguée départementale à la vie associative, qui vient nous parler du Fonds pour le développement de la vie associative à l'occasion du lancement de la campagne du FDVA. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour Sophie.
Et merci d'être avec nous.
Ben, merci de m'avoir invitée.
Alors Christelle, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais exactement? Quel est ton poste au service départemental à la vie associative?
Oui, donc je suis en charge du déploiement des politiques publiques de l'État sur l'Ardèche, donc dans tout le département, pour le développement de la vie associative ardéchoise. Et cela comprend notamment le déploiement du guide asso, donc le réseau d'appui à la vie associative, mais aussi le fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA.
Alors, parlons-en, le FDVA, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une subvention d'État, donc...
On voilà. Précise.
Oui, je précise.
On va y revenir peut-être, parce que c'est pas forcément évident pour toutes les assos, ce découpage territorial français. Donc, on est sur une délégation départementale, mais tenue par l'État. Donc
c'est
là,
ça.
C'est un dispositif d'État, voilà.
Oui, tout à fait. C'est un dispositif d'État. D'ailleurs, mon service est rattaché à l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas un service du département. Et la subvention permet de financer historiquement la formation des bénévoles. Donc, c'est ce qu'on appelle le FDVA 1. Et depuis 2018, le fonctionnement des associations ou ce qu'on appelle un projet innovant. Donc, quand on lance l'appel à projet FDVA, il y a deux appels à projet distincts. Mais qui peuvent être cumulatifs.
D'accord. Alors, qui peut prétendre à ce FDVA ? Quel type d'association ?
Alors, le FDVA 1, toutes les associations de loi 1901, sauf les associations sportives, parce qu'elles relèvent de l'Agence nationale du sport, pour la formation des bénévoles. Mais par contre, pour le FDVA 2, toutes les associations, loi 1901, qui respectent certains critères, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais la majorité des associations, quel que soit leur champ d'activité, peuvent prétendre à un financement FDVA.
Et donc, pour revenir à cette distinction entre le département et l'État que vous représentez, les associations peuvent demander une subvention via le FDVA, en plus de atout association, c'est-à-dire ça peut être cumulatif, et même, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, ça peut être un petit tremplin pour certaines associations d'avoir un fonds de votre part, de la part de l'État, pour enclencher une subvention d'atout asso.
Oui, tout à fait.
Alors, comment on fait pour avoir cette subvention du FDVA ?
Alors, toutes les demandes se font via le compte asso. L'intérêt du compte asso, justement, c'est dans la loi « Dites-le-nous une fois », la simplification des démarches administratives des associations. Les associations vont sur le compte asso pour pouvoir déposer la demande FDVA, mais il faut savoir qu'il y a un lien qui a été fait entre le compte asso et Atout Association. Mmh. Donc, une association qui aura mis ses informations à jour sur le compte asso. Après, quand elle demandera aussi à toute association, ça simplifiera sa démarche. Mais pour le FDVA, il y a un code spécifique et la demande est en ligne directement sur le compte asso.
Sur le compte asso et sur Guide Asso. C'est ça, tout est centralisé sur le site Guide Asso. Guide Asso qui est le réseau associatif.
Oui, voilà. Alors, Guide Asso, c'est le réseau d'appui à la vie associative, c'est-à-dire que ce sont des référents qui accompagnent, qui informent les associations. Mais on a, en Ardèche, l'un des rares sites internet spécifiques Guide Asso, où on peut retrouver dedans des tutoriels, notamment sur le compte asso, comment j'utilise le compte asso, le pas à pas, en fait, de je démarre ma démarche, je me connecte, jusqu'à j'envoie ma demande. Et aussi, on a les référents de conseillers qui peuvent aider à construire le dossier, à informer. Et vous avez aussi les formations gratuites de bénévoles qui peuvent aussi aider, notamment dans la comptabilité, comment écrire un budget. Il y a justement des formations qui sont mises en ce moment et pendant toute la campagne exprès pour accompagner les associations, vraiment pour simplifier leur démarche.
Alors, on parle de campagne, ça veut dire qu'il y a un lancement. Tout ça, toutes ces démarches se font quand ?
Alors, le compte Asso est ouvert depuis le 2 décembre. Donc, les associations ont jusqu'au mercredi 19 février pour déposer la demande. Vu le nombre de demandes, je conseille de ne pas attendre le dernier moment. Surtout, vraiment début février, commencez à clôturer et à envoyer la demande. Après, si jamais, de toute façon, il y a une pré-instruction, donc si jamais on voit qu'il y a un problème dans les dossiers, on revient vers les associations.
Donc là, on est pour le FDVA 1, c'est-à-dire formation des bénévoles, ou pour tous les FDVA, c'est-à-dire comprenant les FDVA 2, c'est-à-dire sur le fonctionnement et les projets innovants ?
Le FDVA dans son ensemble. D'accord. Ce sont les mêmes dates.
Ok, merci beaucoup. De toute façon, vous trouverez toutes les informations sur le site Guide Asso. Une dernière info, puisque aujourd'hui, jour de la laïcité, on est le lundi 9 décembre, vous mettez en place des formations format EducPop les 14 et 21 janvier autour de la thématique Valeurs de la République et laïcité qui se dérouleront à Bourg-Saint-Andéol. C'est gratuit, il faut simplement s'inscrire donc sur le site Guide Asso. Il y en aura d'autres tout au long de l'année, mais en tout cas les prochaines dates de formation, c'est les 14 et 21 janvier. On disait format EducPop, c'est-à-dire que c'est ensemble comment on peut parler, toutes les associations qui participeront à la formation, comment on peut parler, comment on peut mettre en œuvre ces valeurs de la République et de la laïcité.
Oui, tout à fait. Et pour le contact, c'est ma collègue Claire Chevalier, au SDGES, pareil.
Merci beaucoup Christelle Durand d'être venue à ce micro nous parler du lancement de la campagne FDVA.
Merci à vous.
La Minute Asso.
Et voilà, c'est la fin de cette émission, de cette onde curieuse où nous étions encore autour de cette table en train de parler du nom et de la chose, la maladie. Il y a le mal dans maladie, oui. Et est-ce que l'énonciation même de la maladie peut libérer pour certains ? Me disait Guillaume, tu me disais oui. Quand on arrive peut-être quelquefois à dire tu es bipolaire, ça en libère certains, mais tu es schizophrène, comme c'est stigmatisant, c'est quelque chose de très très lourd. Bref, et on continue ces discussions, mais on vous invite à rejoindre d'ailleurs, si vous le souhaitez, l'écho de la Réhab, à venir aux ateliers à Privas les mardis matins de 10h à midi et les jeudis après-midi de 14h à 16h. Vous êtes les bienvenus et vous ferez partie aussi de ces échanges qui sont toujours très enrichissants. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain pour une prochaine Onde Curieuse.